Bien chers amis, bon après-midi, et encore une fois, que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit-Saint, feu d'amour et feu de gloire, soient toujours avec vous. Lorsque nous nous sommes quittés, j'en étais à adresser, respectueusement et fraternellement, une exhortation à mes frères, collègues, prêtres et évêques. Et je disais que nous avons vraiment tout essayé jusqu'ici. On a beau changer les mots, les structures, on revient toujours aux mêmes options, aux mêmes initiatives, ou en fin de compte. Ça marche pendant un certain temps, mais on se rend vite compte que nos résultats sont limités et éphémères. Et il faut sans cesse recommencer et nous évertuer à repartir. C'est, avouons-le, du rafistolage incessant, bien souvent. Combien de temps encore allons-nous prendre pour constater et admettre ce déclin et demander au Seigneur qu'est-ce qu'il y a à faire? Personnellement, mes seules garanties que je peux vous donner en vrac sont les suivantes. D'abord, le style que vous vivez, la plupart d'entre vous présentement, est un style, vous en conviendrez, accaparant et essoufflant parfois, et souvent décevant d'autre part à certains moments. Eh bien, ce style, chers confrères, je l'ai vécu autant que vous, et ce durant 30 ans de ma vie sacerdotale, sous toutes ses coutures, et dans tous les types de ministères en Église, paroissial, ministère d'aumônerie, d'enseignement, d'œuvre, d'administration, etc., auprès des jeunes et des moins jeunes, des pauvres comme des riches, des simples de cœur comme des compliqués d'esprit, dans divers milieux, ouvriers, patronaux, professionnels ou universitaires. Par ailleurs, j'ai découvert et expérimenté à fond depuis 15 ans et avec des milliers et des milliers d'autres frères et sœurs en Église. Dans son essentiel, ce que l'Église a connu dès sa fondation et à ses heures de gloire spirituellement parlant. Et c'est ce nouveau style où nous nous greffons intimement au Christ Jésus, chef de l'Église. Je vous le demande de tout mon cœur. Qu'avons-nous vraiment à risquer et à perdre, de nous en remettre à lui et de nous remettre à le servir dans une Église que lui inspire, anime, oriente, rend efficace, à coup de grâce, car il n'en manque pas. N'est-ce pas à lui d'ailleurs, tête de cette Église, que nous aurons, chacun d'entre nous, un bon jour, à rendre compte de nos missions et de nos ministères individuels ou collectifs. Pourquoi, alors, nous obstiner à retarder l'échéance inévitable? Si, après cette greffe d'intimité, de prière, d'adoration, après cette option à son goût à lui, tout semble en ordre, ça continuera comme avant, mais avec lui. Si au contraire, il nous inspire de changer, pourquoi alors attendre? À la vérité, je le redis, on a tout essayé et ça ne réussit vraiment pas pour la peine. On s'en rencontre depuis au moins un siècle. Ça nous en crève les yeux. Aujourd'hui, le Seigneur vient à notre secours. Il s'offre avec amour et miséricorde, à reprendre son Église et à en faire avec nous un réel succès face aux défis extraordinaires du monde d'aujourd'hui. Ça demande de la foi, c'est sûr et certain. Une plongée profonde dans la foi, c'est vrai. Mais, ne l'oublions pas, lui, il fournit absolument tout. L'élan, le tremplin, la piscine d'eau vive et le championnat assuré. Passons maintenant, si vous le voulez, à la 8e partie, telle qu'indiquée dans le schéma général. Voyons un peu quelques aspects du lendemain et de la suite probable de ces quatre interpellations. Première idée que je réaffirme une autre fois, tous n'ont pas encore reçu la double grâce, tant celle de voir clairement les lacunes du style actuel en Église, que celle de pouvoir saisir clairement les éléments radicalement différents qui doivent caractériser le nouveau style à vivre en Église. Donc, ne soyons nullement surpris si ce qui nous paraît à nous déjà clair et net, évident et impératif, beau, bon et vrai, puisse paraître encore à nombre de ses frères et sœurs, même chefs de file et pasteurs, puissent paraître encore des idées abstraites, embrouillées, ou même absurdes, ou même trop simples pour être vraies. En effet, pour beaucoup d'entre eux, c'est et ça demeure encore du chinois que cette idée d'un nouveau style d'Église. Ce sont là des chimères, c'est du chichi. Et il en sera ainsi encore pour longtemps, dans certains cas qui vont résister à la grâce qui passe, par fierté, par ignorance, par orgueil. Et alors, ils se croiront sincères et de bonne foi en nous mettant en garde et en nous rappelant à l'ordre. Souhaitons et prions pour qu'il ne cède pas à la facile tentation de se moquer de nous, d'ironiser ou de nous condamner. Mais priez, prions pour eux. Quand l'heure viendra, au gré du Seigneur, ils recevront eux aussi lumière, force, foi et courage nécessaires. Donc acceptons simplement que tous n'aient pas encore reçu l'appel et que, même parmi ceux et celles qui l'ont reçu, beaucoup, hélas, hésitent encore, résistent ou rejettent. C'est tellement différent. C'est le jour et la nuit entre les deux styles. Tout ceci étant rappelé, je ne serai pas votre ami et un bon conseiller, chers frères et chères sœurs, si je ne vous prévenais pas du fait que cette transition d'un style à l'autre ne réussira pas nécessairement facilement, instantanément ou par enchantement. Dans bien des cas, vous aurez à faire face non seulement à de la résistance, mais même à de l'opposition ouverte, à des attaques parfois farouches et mesquines. Mais cette première étape négative sera pratiquement inévitable. Mais croyez-moi, si vous la traversez bien cette étape, le Seigneur pourra en tirer les meilleurs fruits pour vous et pour les autres, vos ennemis temporaires. Attendez-vous donc, et c'est d'expérience que je vous en parle, croyez-moi, à vous faire assaillir, bombarder même d'accusations sans rime ni bon sens, Et par surcroît, parfois, méchante et injuste, en provenance, s'il vous plaît, de milieux ecclésiastiques et religieux, parfois les plus huppés. On vous accusera, par exemple, de vouloir détruire l'Église, d'être contre l'autorité, d'être irresponsable, et ce n'est encore rien. Puis, on finira par dire que vous avez fondé une secte, une autre Église parallèle, que vous êtes peut-être hérétique, schismatique, etc., etc. Et on finira par mettre les gens en garde contre vous en leur disant que vous êtes marginal, sorti du réseau, le leur, illuminé, capoté, et le bouquet, vraisemblablement, mentalement, gravement atteint. Et oui, mes amis, les disciples ne sont pas au-dessus du maître. Comme lui, pour lui et avec lui, il nous faut subir cela pour le salut. Notre salut, leur salut et le salut de toute l'Église. Personnellement, je connais depuis 2 ans ce traitement de faveur. Il a été amorcé, comme je l'ai indiqué, par quelques évêques, prêtres et laïcs, et on m'a servi toutes les stations de ce chemin de croix. Mais à vous, je le confesse, ce n'est pas si dur que cela. À chaque jour, à chaque accusation nouvelle, la grâce de son esprit jaillit et se fait conseillère de pardon et d'amour pour eux, et en même temps de paix, de joie et de force nouvelle pour nous. Ces 2 dernières années sont parmi les plus enrichissantes et valables de ma vie. Grâce à eux, et à même leur méchanceté, j'ai pu découvrir à une nouvelle altitude, en m'élevant donc au-dessus de ces attaques, la grandeur puissante, amoureuse et miséricordieuse de notre Dieu 3 fois saint. Et je vous le confirme, les textes qu'on retrouve dans Saint Luc, chapitre 12, versets 11 et 12, et chapitre 21, versets 14 et 15, sont vrais de vrais. L'assistance de l'Esprit-Saint, annoncée par Jésus en cas d'attaque et de procès sommaire, se confirme toujours de façon éclatante et admirable. Rassurez-vous bien, en traversant cette première étape négative, parfois houleuse et provocante, vous obtenez et obtiendrez à coup sûr 3 grands résultats. Le premier, une croissance sûre et certaine de votre propre maturité spirituelle, car elle est mise au creuset et passée au crible. En second lieu, vous donnez à vos adversaires de l'heure la preuve indéniable de la valeur du nouveau style de vie et de comportement en Église auquel vous croyez. Ne pouvant vous entraîner dans la polémique inutile, la guerre des nerfs, ils doivent bien découvrir peu à peu, normalement, que vous continuez à vivre en paix ce que vous proclamez et réclamez. Et enfin, ces comportements plus ou moins catholiques de leur part deviennent de précieux indices pour nous de leur état actuel d'accueil et d'âme. On peut, à travers leur comportement, déceler avec beaucoup plus de justesse leur degré d'aveuglement et d'isolement qu'on est appelé à combler par la prière et l'exemple. Bref, en résumé, le traitement que vous pouvez et allez sans doute recevoir peut aller d'un bout de l'éventail de l'indifférence, indifférence pure et simple ou bien orchestrée et calculée, et à l'autre extrême, à l'autre bout de l'éventail, peut aller jusqu'à la rage, l'orage et le barrage. en passant par divers degrés ou formes de méfiance, de défiance, d'agressivité, d'hostilité ou de représailles. Bien entendu, et vous l'apprendrez à l'expérience, on ne peut pas se substituer aux autres quant à leurs intentions ou impressions. Et comme je l'ai déjà écrit en quelque part concernant cette mère debout, personne n'a, à la vérité, le choix des commentaires négatifs faits à son sujet, ni le contrôle des calomnies graves mises en circulation par d'autres. Mais chose certaine, croyez-moi bien, et je vous l'affirme, foi de Matthieu, basé sur cette excellente expérience en la matière, votre propre attitude intérieure et extérieure y sera pour presque 99% du règlement de ce problème. Restez toujours sur votre, je dirais, son, avec un grand S, son terrain, dans son amour, sa joie, sa paix et sa miséricorde. Ne sortez pas de cet enclos, je devrais plutôt dire de ce vaste domaine. Pardonnez, pardonnez, pardonnez sur le champ, sans analyser ni questionner leurs intentions ou leurs propos. Priez toujours le Seigneur de vous montrer lui-même tout le bien qu'il compte tirer, malgré tout et malgré nous, de tout ce mal des diffamateurs. Oui, je vous le dis, restez de ce côté-ci de la clôture et ne cédez jamais à la tentation de la polémique, de l'apologétique, de l'analyse critique ou du mitraillage. Tout autre terrain dans les circonstances s'avérera pour vous facilement miné et minable. Laissez et laissons l'esprit œuvrer en leur cœur et leurs esprits, il sera votre meilleur avocat et leur meilleur moniteur. Enfin, j'aimerais parcourir rapidement avec vous 6 objections et critiques probables à prévoir. Je pense que ce sont 6 critiques que vous ne tarderez pas à entendre concernant les interpellations. La première objection ou critique, c'est qu'on va dire « tout ça, c'est trop simple pour être vrai ». Comment un si petit remède peut-il ou pourrait-il produire un si grand résultat, celui d'une relance profonde de l'Église? À cela, mes amis, il faut répondre que le résultat ne vient pas tant de ce que nous allons faire, nous, que de ce que lui veut et peut faire à travers nous et avec nous, quand nous deviendrons véritablement ses instruments. Bien entendu, nous sommes habitués davantage à élaborer des solutions et des stratégies beaucoup plus articulées, compliquées, aux allures scientifiques. Et cela semble beaucoup mieux couronner nos propres efforts. Mais à la vérité, on le sait d'expérience, cela ne donne bien souvent, on l'a dit, que des résultats quelconques, partiels et peu durables. Car le compliqué que nous nous imposons souvent prête lieu à des discussions, donne plus de portes de sortie à ceux qui veulent s'évader et favorise les prétextes à ne pas opter pour de bon. Et je dirais enfin que ceux et celles qui appellent cela un petit remède ou un moyen trop simple démontrent vraiment qu'ils n'en ont encore rien compris. Car ce style nouveau est 100 fois plus exigeant que l'actuel. Et si cela avait été aussi simple que ça, il y a bien longtemps qu'on l'aurait mis en pratique. Deuxième objection. Parler ainsi de sainteté, de prière et d'intimité avec le Seigneur, c'est vieux jeu. C'est un retour en arrière. C'est un recul. C'est rétro. Mes chers amis, La réponse à donner, c'est que c'est tout l'inverse. L'Église a été fondée d'abord pour nous conduire et nous rapprocher de Dieu. C'est au contraire notre comportement actuel qui est rétrograde, dépassé à gauche et à droite par les vrais disciples et apôtres du Seigneur à l'heure actuelle. L'Église rassemble le peuple de Dieu en marche vers le Seigneur, source et fin de son salut. Est et sont donc retardataires, et on en a parlé plus tôt, non pas ceux et celles qui s'en approchent ou qui laissent la sainteté de Dieu les envahir, mais bien plutôt ceux et celles qui sont distants et distraits à son égard. Le style nouveau, loin de retourner en arrière, veut plutôt nous aider à bondir encore plus loin, plus à fond, plus au fond et plus loin par en avant. Certains, vous devez vous y attendre, crieront même au fondamentalisme. En disant cela, ils étaleront leur grande ignorance de ce qu'est le fondamentalisme. Celui-ci, comme on le sait, repose surtout sur une interprétation stricte, littérale et individuelle de l'Écriture et l'inhérence absolue de chaque mot de la Bible. Le fondamentalisme est au fond une réaction de défense qui passe à l'extrême opposé contre le libéralisme. Dans le cas qui nous concerne, celui d'opter pour un nouveau style d'œuvre du Seigneur, nous ne nous prononçons absolument pas sur des divergences d'interprétation de la Bible. Nous nous limitons à proclamer la nécessité et l'urgence d'une meilleure relation d'amour, d'intimité, de prière et d'abandon entre les pasteurs, bergers et fidèles, et le Seigneur, qui nous a créés, rachetés et veut nous sanctifier. Rien en tout cela peut prêter flanc à du libéralisme ou à du fondamentalisme, car en ce domaine, on y croit ou on n'y croit pas, on le vit ou on ne le vit pas. Il n'y a pas ici matière à interprétation, discussion ou analyse. C'est une option à prendre ou à rejeter en toute liberté. D'ailleurs, vous le savez, de nos jours, le mot fondamentalisme est souvent et facilement galvaudé par des gens qui veulent faire chic ou choc sans trop savoir ce dont ils parlent. C'est devenu une façon snob de darder les autres en certains milieux. Troisième critique ou objection. C'est bien beau tout ça, mais ça va changer quoi au juste, ce style nouveau? La réponse à nous poser, la vraie question plutôt à nous poser, c'est non pas « ça va changer quoi », mais « ça va changer qui ». Comme on le sait, les marxistes ont toujours prôné qu'il fallait changer d'abord le milieu, et que ce milieu, une fois transformé, l'homme changerait inévitablement à son tour. Les marxistes voulaient commencer par le « quoi » et de là en arriver au « qui », c'est-à-dire à la personne. Dans son enseignement social, l'Église a toujours prôné l'inverse. Changeons d'abord le « qui », c'est-à-dire l'homme dans son cœur et son esprit, et lui transformera le milieu, la société, bref, le « quoi ». Or, même si telle est la thèse pourtant claire et nette de la doctrine sociale de l'Église, nombre de fidèles, laïcs, religieux, religieuses, prêtres et évêques en sont venus peu à peu, sans doute sans trop s'en rendre compte, et avec les meilleures intentions au monde, à épouser la thèse marxiste. Cette grille est devenue la leur, en ce sens qu'ils s'interrogent continuellement d'abord et surtout sur le « quoi » davantage sur les facteurs extérieurs et ambiants de la personne que sur les facteurs intérieurs et l'ambiance interne de la personne, le qui. C'est d'ailleurs ainsi également que bien des religieux, religieuses, prêtres, évêques, consacrés, laïcs, ont peu à peu perdu le sens premier de leur ordination, profession religieuse ou consécration. Au début, ils avaient donné leur vie à quelqu'un, le Seigneur. Ils s'étaient consacrés, livrés entièrement à un qui. Puis, peu à peu, sans trop s'en apercevoir, ils en sont venus à donner la priorité au quoi. Telle mission pastorale, telle nomination, tel mandat qu'on me propose, à quoi ça m'engage? Ça va me mener à quoi, au juste? Le qui, ce quelqu'un à qui ils ont d'abord donné leur vie, finit tranquillement, mais sûrement, par passer en second lieu, pour ne pas dire en dernier lieu. Quatrième objection que vous allez sans doute entendre. Cette option de rapprochement avec le Seigneur risque de nous couper du monde. Ça restreint notre présence et notre engagement de chrétien face aux défis du monde. C'est un retour à une église de sacristie. Vous savez, vraiment, il y en a, et vous en croiserez sûrement quelques-uns, qui aiment charrier, exagérer. Que répondre? Eh bien, la réponse est que loin de vouloir une église absente du monde, par ce style 2, nous recommandons au contraire une église beaucoup plus présente et efficace face aux grands défis de l'heure qu'elle ne l'est présentement. Ce que nous déplorons et dénonçons, c'est précisément qu'actuellement, nous soyons en Église aussi inaptes et ineptes que nous le sommes face à notre action et présence dans le monde. Nous restons encore beaucoup trop en deçà de ce que nous devrions et pourrions apporter au monde. Nous souhaitons donc que nous sortions de notre inertie spirituelle actuelle afin d'être beaucoup mieux équipés, actifs et percutants. Or, c'est au point de départ, auprès de lui, le Seigneur, qu'il faut aller chercher lumière, force et moyens qui donnent du résultat, pour trouver également auprès de lui un tout nouvel élan, notre allant nouveau face au monde. Cinquième objection. Cette façon de penser, de vivre et d'agir en Église va nous conduire à avoir des pasteurs et des fidèles et des bergers tous semblables. Cela va à l'encontre de la diversité des talents naturels et des dons spirituels. Ici encore, mes chers amis, la réponse est cinglante. Encore une fois, c'est tout le contraire qu'on cherche. Dieu entend faire de chacun de nous un chef-d'œuvre de sainteté exclusif, hors série. Et je prophétise que le style nouveau, vécu par, disons, 100 évêques ou 100 curés, produira, si ceux-ci y sont fidèles, 100 diocèses différents, très variés, ou 100 paroisses bien distinctes l'une de l'autre. Et déjà, on le voit. Je connais des curés ou des évêques qui vivent ce style, et il n'y en a pas deux identiques. Dans leur façon d'être inspirés, dans leur façon de dire et d'agir, et dans les résultats qu'on trouve dans leur paroisse ou leur diocèse. C'est nous, mes amis, et non lui, le Seigneur, qui avons inventé et entretenu l'uniformité et la production en série. Sixième et dernière objection. Mais n'y a-t-il pas un grand risque d'anarchie, de confusion, si chacun et chacune, comme vous dites, se branche sur le Seigneur? Qu'advient-il de l'autorité alors? C'est l'erreur des protestants qui ont encouragé la libre interprétation par chacun de la parole de Dieu. La réponse, la voici. Disons d'abord qu'il ne s'agit en aucune manière, comme dans le cas de nos frères séparés, de libre interprétation de la Bible ou de mise de côté de la tradition en Église. Dans le style nouveau en Église, le magistère demeure intact. Et je ne crois pas que le Seigneur va se mettre d'ailleurs à inspirer les fidèles en sens inverse de l'Église. En outre, le discernement spirituel et communautaire demeureront toujours de mise, tant par les fidèles que par les autorités. Bien sûr, l'autorité aura elle aussi à discerner mieux, et plus souvent spirituellement et communautairement, avant de décider, de s'affirmer et d'imposer. Si les fidèles se laissent davantage instruire par le Seigneur, grâce à une vie plus intense, d'écoute, de prière et de partage. Mais ce n'est pas là un problème. C'est au contraire un grand avantage pour l'Église et ses membres. Et encore une fois, j'insiste, le style nouveau consiste non pas à du, entre guillemets, laisser aller, mais en une attitude où c'est lui qu'on laisse aller en nos vies et à travers nous dans l'Église et le monde. Et je vois, mes chers amis, que le temps file et malheureusement, je vais mettre de côté la neuvième partie où je voulais partager avec vous certaines inspirations et prospectives prophétiques. Mais je passe plutôt à la prochaine étape, qui est une brève récapitulation de tout ce que nous avons parcouru jusqu'ici. Si vous voulez, nous allons reprendre en main notre schéma général. Nous avons donc ensemble proclamé et enregistré quatre interpellations de deux cassettes chacune, sous le thème général « Essor ou déclin de notre Église ». Elles forment un ensemble et une continuité, même si chacune de ces interpellations a été coiffé d'un slogan particulier et interpellant, c'est le cas de le dire. Le premier slogan était « Enlevez la pierre, Église d'aujourd'hui, sors de là ». C'est-à-dire « Sors de ce déclin continu », dont la cause est notre style actuel de pensée, de vie, et de fonctionnement en Église, style dépassé, blessé à mort et qui doit à tout prix céder la place. Le deuxième slogan, vous vous en rappelez, était « Chrétiens et chrétiennes, dormons-nous, sonnons les matines ». C'est-à-dire, ayons le courage de sortir de notre somnambulisme avant qu'il ne soit trop tard. Ayons la volonté et le courage de voir le signe de Jonas, de nous poser les vraies questions et de nous ressaisir. Troisième slogan, du petit catéchisme au grand rachitisme. En effet, faut bien l'avouer, nous sommes bel et bien passé d'un extrême à l'autre. Jadis d'un gavage de cerveau à un lavage de cerveau. Jadis du mémoriser sans comprendre à l'évaporer sans savoir. Jadis du très exigeant au selon les gens. Quatrième et dernier slogan, une église à bout de bras ou à coup de grâce. C'est-à-dire, une église entre nos mains ou entre ses mains. Une église qu'on teste à l'effort ou à l'essor. Ces quatre slogans chocs ont pour but de nous aider à bien nous souvenir des lignes de fond, des thèmes de fond de cette série d'interpellations. Dans une première partie, nous nous sommes posés certaines questions concernant la nature et la portée de ces interpellations, à bien distinguer des dénonciations. Dans une deuxième partie, à la lumière de trois critères précis, nous avons vu que notre Église était bel et bien sur la courbe des rendements décroissants depuis 1940, entre autres, qu'elle est en état de déclin continu, voire même accéléré. Le premier critère qui nous a permis de porter cette évaluation, c'est que les fruits spirituels, fruits aux quatre valeurs promis par Jésus, à savoir du fruit spirituel savoureux, abondant, qui demeure et se reproduit, ces fruits ne sont pas ou ne sont plus là, ni aussi évidents qu'ils pourraient ou devraient l'être en Église. Le deuxième critère, les signes vitaux spirituels chrétiens, c'est-à-dire la foi, l'espérance, la charité, la relation d'intimité et d'amour avec le Seigneur, la ferveur dans la prière et l'adoration, etc., ces signes vitaux spirituels chrétiens sont de plus en plus faibles en bien des milieux, même ecclésiastiques et religieux, et chez un nombre croissant d'individus. Enfin, en troisième lieu, l'engagement chrétien ou du chrétien en l'Église et dans le monde semble en perte de vitesse inquiétante, tant quantitativement que qualitativement. Dans une troisième partie du schéma général, nous avons vu assez longuement que seul un nouveau style de pensée, de vie et de fonctionnement en Église va et peut nous sortir de l'impasse, à savoir que l'Église devienne et redevienne en tout, partout et pour tous, véritablement une œuvre du Seigneur, et non plus seulement notre bonne œuvre à nous, pour le Seigneur, si bien intentionnée ou active que cette œuvre soit. Et nous nous sommes arrêtés aux quatre éléments essentiels qui caractérisent ce style. Les quatrième et cinquième parties nous ont présenté ce que j'oserais appeler le combat à finir entre le chien-dent et les fruits et les fleurs du nouveau printemps ecclésial annoncé par le Seigneur. D'une part, 12 forces négatives, dont le poids s'accentue sans cesse en Église et institution, et qui pressent de plus en plus la courbe vers le déclin, par le fait que ces forces indisposent les fidèles, alourdissent la vie de l'Église, créent en elle complexification, si je peux inventer le mot, tension et incompréhension sans cesse accrues et nouvelles. Et, d'autre part, 12 forces positives, bel et bien suscitées dans son peuple par l'Esprit du Seigneur, à travers l'ensemble de l'humanité. Forces qui sont des sources puissantes de renouveau et de relance spirituelle des âmes, évidentes et fortement à l'œuvre partout en Église communauté sous sa mouvance, l'Esprit du Seigneur, et prêtes à relancer la courbe vers un essor éclatant dès cette nouvelle décennie. Le style qui prévaut actuellement attise les premières forces négatives, veut, veut pas, et neutralise les secondes positives sans même s'en rendre compte. Alors que le nouveau style, lui, dès qu'il est en place, fait ou ferait mourir et sécher les premières forces négatives, c'est-à-dire ce chien-dent des forces qui nuisent à l'Église, et fait ou ferait éclater les forces vives du Seigneur, et le tour est et serait joué, l'Église renaît ou renaîtrait sous nos yeux. Et aujourd'hui, en cette quatrième interpellation, comme vous le savez, nous avons parcouru ensemble les sixième, septième et huitième, et mis de côté la neuvième partie. Il n'est donc pas nécessaire que j'y revienne. Permettez-moi, toujours en guise de récapitulation, de revenir en coup de vent sur quelques points importants que je crois peut-être utile de vous réaffirmer avant de vous quitter. Ayant reçu et capté la réponse du Seigneur à ma question initiale sur ce qui manque à notre Église et à nous, j'aurais fort bien pu en rester là, l'apprécier et me contenter d'en vivre paisiblement et d'y trouver mon bonheur. Mais trois motifs sont intervenus pour m'inciter à venir le partager dans ces interpellations. Et on me fait signe que le temps achève, et alors je reprendrai sur l'autre côté de la cassette ces trois motifs qui m'ont poussé à proclamer et réclamer en Église ce nouveau style.